tous. Donc, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Dominique Foubert dans ce séminaire sur le sens du temps. Dominique Foubert, qui est chercheur à GRAM, qui est un centre national de création musicale à Lyon, et qui il travaille depuis les années 90, où il s'est intéressé plus particulièrement au système et architecture temps réel pour la musique, sur la question aussi des langages formels pour l'écriture musicale. Et puis, on prend aussi en compte les besoins de la création contemporaine. Et donc, à ses fins, il développe depuis une dizaine d'années un ensemble d'approches innovantes pour la notation musicale avec l'environnement InScore, dont il va nous parler ce soir, conçu comme un espace ouvert pour la conception de partitions musicales augmentées, interactives et dynamiques.
Merci, donc bonsoir, merci d'être là. Donc je vais vous parler de partitions musicales et de partitions numériques. Et bon, comme vient de le dire Myriam, c'est un domaine que j'explore un peu depuis une dizaine d'années, même avant, mais je veux dire, la partition numérique... Voilà, c'est à peu près ça. Et particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est partition, on est dans un espace graphique, et ce qui m'intéresse, c'est en quelque sorte de penser cet espace graphique comme un espace temporel, et donc de raisonner dans le temps pour décrire en quelque sorte des comportements dans l'espace graphique. Comme le temps... je pense que la pensée musicale, de manière générale, est basée sur le temps. Ça me semblait naturel de pouvoir exprimer des choses dans l'espace graphique en raisonnant sur le temps. Alors voilà, je vais parler de ça, je vais parler du temps de manière un peu plus générale, et puis tout ça à travers les travaux qui sont réalisés à GRAM. Et la première chose que... qui me semble intéressante, c'est de penser la partition comme une espèce de projection. C'est du temps mis en espace. C'est-à-dire, c'est une manière d'écrire, de porter sur le papier une description du temps plus ou moins sophistiquée. Et voilà. Et pour un peu illustrer ça, je vais vous montrer un peu des partitions. Alors, il ne s'agit pas de faire une histoire de la notation musicale, non, mais c'est juste voilà, il y a des évolutions lentes, longues, mais assez frappantes, surtout dans le domaine de la musique contemporaine. Alors ça, voilà, c'est les premières partitions, c'est des neumes. Il n'y a pas vraiment de temps, sauf celui de la prosodie. Et c'est quand même vieux. Ici, ça commence à se structurer. Je pense que vous connaissez un peu tous ces notations-là. C'est les... Il y a quand même 500 ans de différence entre les deux. Et là, on arrive à des partitions où, c'est du Bach, où le temps commence à être codifié de manière assez précise. Et on arrive ensuite, assez vite aussi, à des choses beaucoup plus contemporaines, où le temps est codifié, mais de manière parfois très précise. Et puis là, on arrive dans l'époque contemporaine, où... il y a des révolutions sur la forme. Alors ça, c'est une partition qui est assez intéressante. C'est décembre 1952 de Earl Brown, qui est écrite pour qu'il n'y ait pas de sens de lecture du temps. C'est une espèce de tableau abstrait. On peut l'interpréter un peu dans tous les sens. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont amusés à le tourner, mais à dessein, le temps n'est pas représenté. Ça, c'est une autre partition dans laquelle il n'y a pas de temps, qui n'est même pas faite pour être jouée, parce que c'est une série de pièces de Schnabel qui sont juste faites pour être lues, et c'est à l'auditeur en quelque sorte de construire sa musique en pensée à partir de la partition. Dans les autres expériences de... alors là, c'est plus tellement une histoire de temps, c'est plutôt que là on aborde des choses qui sont de l'ordre de la musique pas vraiment interactive, mais de la musique en kit peut-être, on pourrait dire ça comme ça. C'est une série de pièces de John Cage en 1954 en fait, qui sont, dont la partition, ben, c'est des transparents. Alors ça, c'en est une, la variation 1, c'est des transparents avec des points, d'autres, des lignes qu'on superpose, et puis, en fait, le musicien compose sa partition comme on veut, et surtout, il interprète les choses comme il veut, c'est-à-dire, donc, en fait, l'idée, c'est un peu de faire des projections des points sur les lignes, puis de dire, voilà, ben, cette ligne-là, ça représente la fréquence, le timbre, la structure, la durée, l'amplitude, la hauteur, ce qu'on veut, c'est le musicien qui décide, en fait. Et dans le genre musique interactive, bah, on a ensuite ce type de partition de Stockhausen, par exemple, qui s'appelle Refrain, et en fait, c'est une partition avec, qui est livrée avec un transparent qui pivote sur la partition, et le musicien donc fait pivoter ce transparent et joue, les consignes, c'est de jouer les motifs qui sont à l'intérieur du transparent. Celle-là, ça c'est des choses modernes en fait, où le temps réapparaît mais de manière complètement linéaire et avec des transcriptions de pièces électroacoustiques. J'ai déjà marre, hein, si vous pouvez commenter. Et c'est, ça c'est une transcription, la partition n'est pas du Getty, c'est une transcription de Rainer, je ne me souviens plus. J'ai plus le nom, tant pis. La pièce est de 58, la transcription de 70. Ça, c'est une partition intéressante aussi, parce qu'elle pose d'autres problèmes, celui des nouveaux instruments. C'est une partition d'une pièce qui s'appelle Light Music, qui est de Thierry Demey, peut-être que vous connaissez déjà, et qui est une pièce vraiment très très... Elle est assez fascinante, c'est une espèce de tube de la musique contemporaine, de la création contemporaine, parce que c'est à la fois de la musique, de la danse, et une œuvre plastique. Enfin, là voilà. Voilà, un petit extrait. Et là, l'instrument, c'est les mains qui sont dans un faisceau de lumière. Avec une projection en arrière du mouvement des mains. Cette pièce a été créée par Jean Geoffroy, qui est professeur de percussion au CNSMD de Lyon, et pendant très longtemps, il n'y a que lui qui pouvait la jouer. Il n'y avait pas de notation, il n'y avait pas de moyen pour, en quelque sorte, transmettre cette musique-là à un autre musicien. Et ça a mis du temps avant que, finalement, il y ait eu une notation qui soit suffisamment efficace pour pouvoir la transmettre à quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète, par exemple, puisse reprendre l'œuvre et la jouer. Donc il y a des vraies questions qui se posent avec, avec les nouveaux dispositifs, avec les nouveaux instruments, qu'on ne peut pas noter de manière traditionnelle, ou on peut en tout cas dévoyer la notation traditionnelle pour indiquer des choses, mais ça suffit pas, c'est pas forcément suffisant. Ça, c'est une autre expérience d'un jeune compositeur qui s'appelle Mike Solomon, et que je trouve très intéressante aussi, c'est une partition animée. Alors, c'est pour trois instruments. Et là, l'idée, c'est d'explorer comment le placement des signes sur la partition influe sur le jeu du musicien. Alors, en même temps, c'est un jeune compositeur qui a beaucoup d'humour. Même dans l'animation de la partition, il y a des choses qui sont assez marrantes, je trouve. Les points d'orgue qui viennent prendre des notes pour les déplacer, je trouve ça assez drôle. Voilà. Autre partition que je trouve assez intéressante aussi, parce qu'il y a un problème qui se pose beaucoup dans les pièces interactives. C'est-à-dire où on a un musicien et un dispositif, un ordinateur qui réagit au jeu du musicien. En général, quand il y a deux musiciens, on se regarde, etc. Il y a une communication entre les deux qui se passe. Là, en gros, on ne sait pas trop. Le musicien ne sait souvent pas trop ce qui se passe du côté de la machine. Donc il y a un vrai problème de représentation du processus d'interaction. Et ça, c'est une pièce qui vraiment, eh ben, à la fois indique ce qui se passe du côté de la machine et ce qui est à faire pour le musicien. Alors ce que vous voyez, la petite boule qui se déplace sur le cercle et qui ensuite va sur les petites ramifications, ben, c'est le processus informatique. C'est-à-dire qu'on voit ce qui va se passer, on peut prédire ce qui va se passer du côté du musicien. Et la boule qui est au centre, c'est la partition de l'instrumentiste. Et cette partition, en fait, c'est des choses à dire au moment où la boule traverse le texte correspondant. Voilà, encore une dernière petite partition qui, elle, en fait, ici, l'instrument et la partition sont confondus. Vous allez le voir assez clairement. Voilà, c'est un dispositif pour un nombre variable de musiciens, puis c'est des petites sonnettes. Et hop, voilà. En fait, ça indique, il y a un signal visuel qui indique à chaque musicien quand est-ce qu'il doit jouer. Ce compositeur, Ryan Rossmith, il s'amuse à faire beaucoup de partitions animées et qui sont jouables en fait par des gens qui ne sont pas musiciens. Et donc il arrive à réaliser même des choses rythmiquement très complexes avec ce genre de dispositif. Je trouve que celle-là, de partition et de pièces en même temps, elle est à la fois assez jolie et plaisante à la fois à regarder et puis à écouter. Quoi. Après, ça a ses limites aussi, dans la mesure où, par exemple, c'est le genre de partition où on ne contrôle que l'espace temporel et puis et rien du reste. Voilà, alors tout ça, enfin, je veux dire, surtout les dernières partitions qu'on a vues, ça soulève un certain nombre de questions. Ça en soulève beaucoup même. Beaucoup qui sont liés aux évolutions technologiques et autres. Moi, je m'intéresse plus particulièrement à la question des langages de programmation pour l'écriture musicale, c'est les langages informatiques, aux formes de la représentation de la musique. Et je parle de formes, je ne parle pas en termes musicologiques, hein, c'est vraiment des formes graphiques. À la pérennité de la partition numérique, on a vu que ça c'était une question importante, puis le fait de noter déjà les choses et de les représenter, ben, ça permet déjà de les transmettre et à d'autres musiciens, mais aussi de les transmettre dans le temps. Maintenant, avec l'avènement de la partition numérique, on se heurte au problème de pérennité de toute la production, de toutes les productions numériques. Bon, ça c'est un problème immense. Oui, mais je ne vous parlerai pas de ça, en fait. Et je vous parlerai peut-être surtout des rapports entre l'espace et le temps, comme je l'ai dit en introduction, parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Voilà. Et puis après, il y a d'autres questions là, qui ont vraiment à peine des ébauches de solutions. La représentation de la spatialisation, avec... y a quand même des propositions intéressantes qui ont été faites, par exemple. Bertrand Mérier, ici présent. Voilà, il y a vraiment plein de questions qui sont soulevées à la fois par la création contemporaine, à la fois par le fait qu'on utilise des partitions numériques. Mais je vais vous parler plutôt de ces choses-là. Alors, à Gram, il y a deux systèmes qui sont développés. Le premier, c'est voilà, c'est un projet qui s'appelle Guido. C'est un ensemble de composants pour le rendu automatique de partition en notation symbolique. Et puis le deuxième, c'est InScore, qui utilise Guido aussi, qui est un environnement pour la conception de partitions augmentées, interactives et dynamiques. Alors je vais vous expliquer un petit peu de ce que c'est dans le détail. Voilà, Guido, c'est dans le domaine de la notation symbolique, c'est une approche de type compilateur, c'est-à-dire c'est un logiciel à qui on donne une description textuelle de la musique, comme celle que vous voyez ici, et qui va, à partir de cette description textuelle, fabriquer une image qui est la musique, qui est de la notation musicale. Donc voilà, l'image correspondant à la description textuelle que l'on vient de voir. Et ça, c'est fait de manière automatique. Et le moteur Guido, c'est un moteur qui a un certain nombre de caractéristiques qui sont assez uniques, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une... Alors, le projet lui-même, c'est une application, c'est une librairie, c'est des outils pour faire ces conversions-là à différents formats. C'est surtout quelque chose, un moteur qui inclut beaucoup d'automatismes, c'est-à-dire qui est capable de calculer automatiquement, qui incorpore un savoir-faire de graveur de musique. Je ne vais pas dire qu'il est aussi bon que quelqu'un qui sait faire de la gravure musicale, mais il en fait beaucoup déjà. Qui peut faire du rendu temps réel, du streaming de partitions, c'est-à-dire qu'on lui envoie la partition, la description par petits bouts et qui est capable de faire le rendu de cette partition-là au fur et à mesure. Et puis, ça fonctionne un petit peu partout et surtout pendant très longtemps, c'est resté la seule ressource qu'on peut embarquer dans une application, c'est-à-dire prendre ce moteur de rendu et puis construire des applications diverses et variées avec ce moteur de rendu. Et notamment, InScore utilise ce moteur-là pour faire de la notation symbolique. Mais il ne fait pas que de la notation symbolique. C'est un espace graphique qui est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut mettre des images, des textes, etc. Et comme je l'ai dit précédemment, on n'est pas dans un logiciel de dessin, on est dans une partition musicale. Ça veut dire que tous les éléments de cet espace graphique ont une dimension temporelle, c'est-à-dire une date et une durée, et aussi un tempo. Donc c'est un espace graphique ouvert, c'est un espace qui permet de représenter l'interprétation de la musique. L'interprétation est vue comme un signal, ça peut être un signal sonore, ça peut être un signal qui provient de capteurs gestuels. Et donc, c'est des objets qu'on peut mettre dans une partition et qui ont les mêmes propriétés que tous les objets de la partition, comme par exemple la notation symbolique. C'est un environnement où on peut représenter les processus d'interaction, où on peut faire des partitions dynamiques et interactives. Dynamique, ça veut dire qu'elles évoluent dans le temps. Interactive, ça veut dire qu'on peut interagir avec la partition. Où on peut faire de la composition de partitions symboliques. Avec des extensions réseau, ça veut dire qu'on peut, par exemple, piloter une partition sur plein de machines à partir d'une partition donnée sur un réseau local, ou encore publier une partition sur Internet, ou encore incorporer dans une partition des ressources qu'on va aller prendre sur des réseaux. Et pour finir, surtout, et c'est de ça que je vais vous parler dans un premier temps, c'est un environnement où on peut faire ce que j'appelle de la synchronisation temporelle dans l'espace graphique. En quelque sorte, pour faire simple, ça consiste à représenter les relations temporelles des différents objets de la partition. Alors, je vous montre juste quelques exemples de partitions réalisées avec InScore. Voilà, ça c'en est une. C'est une pièce de Richard Audley, qui est un compositeur britannique qui est à Cambridge, et qui a fait des variations sur December 1952, dont je vous ai montré la partition tout à l'heure, et que vous retrouvez à droite, avec une transcription pour piano que vous voyez à gauche. Et les deux d'ailleurs sont réalisés avec InScore. Ça, c'est une partition, c'est une modélisation d'une pièce de John Chongning. Donc, où ici, on manipule des objets qui sont en fait des images. Autre exemple, c'est un environnement. Alors, ici, c'est un environnement qui s'appelle Gescom. C'est un chercheur qui est à l'Université de Strasbourg, qui travaille beaucoup sur des partitions complexes. Xenakis, Fernehoff, et donc qui fait des systèmes de à vocation pédagogique, donc basés sur des règles de réécriture pour simplifier la partition et adopter une approche purement gestuelle sur le travail de ses œuvres. Donc il a construit tout ce système pour représenter à la fois des signaux, la partition, les représentations simplifiées, pour avoir du suivi de ses gestes en fonction de... et afficher sur la partition sa position courante en fonction de ses gestes, justement. Et ça, c'est encore une partition qui est faite... c'est une partition pour... qui fonctionne en réseau, en fait. Et qui a été faite par Slav Kozagorek, qui est un thésard qui est, je pense, il est en Angleterre, je crois, à Londres, me semble-t-il. Et donc, qui a aussi conçu des choses qui sont faites, par contre, ici, pour fonctionner complètement en réseau. Donc, entre quatre instrumentistes, il y a, je crois, piano, saxophone, flûte et trompette, je crois bien. Voilà, ça c'était juste quelques petits exemples. Alors maintenant, cet environnement-là, InScore est entièrement piloté avec un protocole qui s'appelle OSC. OSC, ça veut dire Open Sound Control. Et ce protocole, c'est un protocole réseau, consiste en une chose assez simple, c'est-à-dire qu'il est conçu comme une adresse, que vous voyez ici par exemple, comme un chemin de fichier par exemple, un chemin d'accès à un fichier dans un système Unix, suivi, alors là ici, dans cet exemple-là, voilà, on a quatre objets, hein, quatre adresses différentes, title, frame, score, et puis le premier fait usage d'une étoile qui représente n'importe quoi. Donc c'est une adresse suivie de paramètres. Hein, et voilà, c'est ça qui constitue un message. Et ce petit, juste cette petite partition, ben ça nous donne ça comme résultat, comme score. Alors je vais vous montrer quand même un peu, maintenant les choses un peu en action, voilà. Alors ça c'est une score, en fait c'est une fenêtre, il n'y a pas d'interface utilisateur. Et comme ça fonctionne avec ce protocole OSC, on peut donc piloter cette application-là avec... une application qui est capable d'émettre ces messages-là, ou alors il y a un langage de script que vous voyez ici qui est l'équivalent de l'émission de ces messages. Et on peut faire du drag and drop, c'est-à-dire prendre soit des fichiers puis les déposer ici, soit du texte comme là. Voilà, je prends la première ligne, je la dépose ici, c'est équivalent à l'émission de ce message. Voilà. Et cette première ligne, qu'est-ce qu'elle envoie? Elle envoie le message d'elle à tous les objets, et donc elle supprime tous les objets. Cette ligne là, eh ben, elle crée un petit objet texte. La suivante va faire un petit peu de mise à l'échelle. La suivante fait du déplacement en Y. Et puis la dernière ligne change simplement la fonte utilisée. Voilà, les deux lignes suivantes, bon, c'est très simple, hein. Je pense qu'intuitivement on comprend bien comment ça fonctionne. Les deux lignes suivantes, ben, elles créent un rectangle, changent la couleur. Et les deux lignes suivantes, ben, créent une partition. Alors ici, c'est une description textuelle de la partition qui est compilée en une description graphique à la volée. Et donc voilà, ça nous fait simplement cette petite partition. Alors après, voilà, une chose intéressante, c'est que je vais commencer à raconter maintenant parler un peu de ces histoires de relations avec le temps. Alors là, si maintenant je veux... Voilà, je vais créer encore un objet supplémentaire. Voilà. Voilà, c'est un cercle. Je dis que c'est une ellipse. Et puis je lui donne sa largeur, sa hauteur, en utilisant une variable que je déclare juste au-dessus. Alors c'est un peu gros ça. Voilà. Et puis je vais changer sa couleur. maintenant, je vais synchroniser cet objet, ce petit cercle bleu, je vais le synchroniser sur la partition. Donc là, j'ai un objet dans ma partition qui est chargé de gérer les synchronisations. Il s'appelle 5. Et je lui dis, voilà, tu synchronises mon cercle sur la partition qui s'appelle score. Et voilà. L'effet de bord, c'est que, effectivement, cet objet s'est déplacé, il s'est mis à la date correspondante de la partition. Sa date, c'est 0. Hein, et là, il s'est mis donc à la date 0 de la partition. Alors, je vais juste le mettre au-dessus. Il y a un mode de synchronisation. Je lui dis, ben, voilà, tu vas te mettre plutôt au-dessus de la partition. Je pourrais le mettre en dessous, c'est égal. Mais là, maintenant, par exemple, je vais déplacer cet objet dans le temps. Hein, et je vais lui dire, ben voilà, date, ben voilà, je le mets à la date 1. Date 1, c'est en temps musical, 1, c'est égal à une ronde. Donc, hop, je déplace cet objet dans le temps, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se déplace dans l'espace graphique pour se mettre à la position correspondante. Maintenant, je vais le ramener à la date 0, et puis je vais changer son tempo. Alors, chaque objet a une propriété qui s'appelle le tempo, et en fait, par défaut, ce tempo, il est à 0, mais quand il n'est pas nul, et ben l'objet se déplace dans le temps à la vitesse de ce tempo. Bon, là j'ai mis un tempo de 40. Hein. C'est pas rapide. Comme ça, on a bien le temps de voir que l'objet se déplace. Hein. Et donc là, il bouge, voilà, tout seul, simplement parce que cet objet se déplace dans le temps. Alors. Bon, et là, il a disparu parce qu'en fait. Il est une date qui n'existe plus sur la partition. Les dates qui n'existent plus sont très loin. Très loin derrière. Alors. Donc, je vais retourner vite fait à ma présentation. Et voilà. Maintenant, le problème, c'est que, en fait, dans la notation musicale, le temps et l'espace ne sont pas proportionnels. Voilà. Ici, par exemple. Chaque rectangle représente une noire, sauf le dernier qui représente 4 noires. Or, regardez, pour les 4 premiers, la différence de longueur. Et regardez si, par exemple, je mets 4 fois une noire en correspondance avec la ronde. En fait, la notation musicale, elle a été optimisée pour la lecture. Et on arrive à ce système où, effectivement, l'espace n'est pas proportionnel au temps. Ce qui pose quand même pas mal de problèmes quand on veut synchroniser des choses. Ça, c'est un exemple de partition. Voilà, on a deux endroits qui sont surlignés en bleu et qui correspondent à la même durée. On voit très bien que, en fait, ça n'a pas du tout la même dimension. Donc, je vais juste illustrer ça rapidement avec un autre petit exemple. En fait, c'est des voitures. Donc ici, ce que je peux faire, elles sont synchronisées sur la partition. Je peux les déplacer dans le temps, hein, comme mon petit point tout à l'heure. Là, elles se déplacent. Bon. Mais je peux dire aussi que, demander au système à ce qu'il prenne en compte la durée de la voiture. Hein. Et là, les voitures, elles ont chacun une durée d'une noire. Et on voit très bien que, en fait, suivant l'endroit, hein, elles s'étirent dans un sens, elles se compressent, etc. Tout ça parce que ça illustre bien, si vous voulez, ce problème de temps qui n'est pas proportionnel, etc. Alors, comment on résout ce problème-là? Eh bien, on le résout de la manière suivante. Voilà. Ici, j'ai une partition, et puis en bas, j'ai, figurez-vous, c'est aussi une partition d'un compositeur qui s'appelle Mark Applebaum, qui est à Stanford, mais qui s'amuse à faire des partitions purement graphiques, et pas que. Mais enfin, en tout cas, celle-là, c'est une partition purement graphique. Et si je veux représenter les relations temporelles, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais établir une ligne du temps, et puis établir des relations entre l'espace graphique et la ligne du temps. ici, allez, vous voyez que pour chaque partition, en fait, j'ai des petites lignes qui disent, ben voilà, ce segment graphique est en correspondance avec tel intervalle temporel. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout bêtement, je vais faire de la composition de relations qui fait que je peux supprimer cette ligne de temps et créer une relation directement entre un segment graphique d'un objet avec le segment graphique correspondant de l'autre. Et il suffit ensuite d'afficher cette image dans l'espace graphique de l'autre pour que, en quelque sorte, on ait l'équivalent. C'est un peu comme si on avait chaque pixel qui porte une date et qui serait en correspondance avec la date correspondante de l'objet maître, en quelque sorte. Alors ça, je vais vous le montrer. Voilà. Et ben voilà. Donc, on a la partition qui est là. Ici, on voit en quelque sorte comment les objets sont segmentés. Et là, je vais synchroniser l'objet du bas avec celui du haut. Ben, pour l'instant, par défaut, il fait juste une ronde. Donc ça nous donne ça. Mais voilà, si après je lui affecte une segmentation, une relation particulière avec l'espace temporel, ça nous donne ça. Et puis je vais juste. Voilà. Je cache le mapping pour qu'on voit mieux, en quelque sorte, comment en fait ces relations temporelles sont automatiquement permettent finalement d'aligner chaque pixel avec le pixel de l'espace mètre correspondant. Alors après on a exactement des problèmes similaires avec dans la notation musicale avec le temps qui n'est pas forcément complètement linéaire. Si vous prenez cette partition là, voilà, on va aller jusqu'à la barre de reprise et puis on reprend, on va jusqu'à Dalsenno, on reprend aussi, on va à la barre de reprise, on rejoue la reprise, on va jusqu'à la coda et puis ici on saute à la coda. Donc là encore une fois, eh ben, on a quelque chose qui est, on peut résoudre ce problème là exactement de la même manière en faisant une relation entre ce temps-là, ce temps logique de la partition, avec un temps qui serait vu comme un temps déroulé. Par exemple, ici, ben, voilà, je fais cette relation-là. Ensuite, au moment de la reprise, eh ben, je vais avoir des intervalles temporels qui vont avoir deux relations dans le temps déroulé, hein, etc. Après, une fois qu'on reprend au signe, eh ben c'est pareil, on va avoir des intervalles qui vont avoir deux relations, même au milieu dans la reprise, on va avoir quatre relations dans le temps déroulé, etc. Et ça, ça nous donne, ben, je vais vous faire une petite illustration rapide. Et tout ça, c'est un petit peu automatique. Voilà. Là, ça nous donne cette petite voiture qui, alors, on va accélérer un petit peu. Voilà. Là, elle rentre dans la barre de reprise. Hop, elle fait la reprise. Hop, on va, hop, aller ici rapidement. Elle reprend au signe. Et puis, elle va sauter à la coda. Ça, il n'y a rien à faire pour exprimer tout ça, c'est automatiquement pris en charge par le système parce que il établit ces relations là à la fois dans le domaine temporel et à la fois dans le domaine graphique. Alors ça, je vais sauter. Et je dis dans le domaine temporel, mais également dans le domaine graphique. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire aussi qu'on a un segment graphique qui peut avoir plusieurs relations avec un segment temporel. Et ça, ça nous donne cette autre chose qui est assez marrante. Alors, je suis vraiment dans des exemples qui peut-être musicalement, ne sont pas forcément toujours très, très intéressant, mais enfin qui illustre quand même bien, assez bien le problème. Voilà, ici, là, alors voilà, on est passé des voitures au petit train. Donc le petit train, il est synchronisé. En fait, voilà, je vous montre simplement voilà, la segmentation du train. C'est quatre wagons, c'est quatre segments, et ces quatre segments ont des relations avec, avec ben, les quatre, avec, ils ont une durée d'une ronde, et puis ils ont des relations consécutives dans le temps. Et donc, ce que je peux faire très facilement, ben, c'est dire, ben, au lieu d'avoir une relation dans le temps, ben, je vais avoir une relation dans deux relations dans le temps, hein, avec toujours avec des segments temporels consécutifs. Et ça nous donne quoi? Ben, ça nous donne naturellement une rame de train avec deux rames de train qui se succèdent. Voilà, tout ça pour dire que, en fait, même ce genre de comportement-là, on peut les exprimer finalement complètement dans le domaine temporel et on n'a rien à dire pour ce qui est du domaine graphique. Maintenant, parlons du temps. Comme vous l'avez vu, en fait, si je change le tempo d'un objet, eh bien, il va se déplacer tout seul dans le temps. Ça, c'est le temps logique, c'est le temps musical, hein, qui est relatif à un tempo. Mais maintenant, il y a ici une autre notion du temps dans ce système-là qui s'appelle le temps événementiel. Alors, le temps événementiel fonctionne de la manière suivante. On a un objet, puis on lui demande de surveiller. On lui envoie le message watch, on lui demande de surveiller un événement. Alors, ces événements, ça peut être plein de choses très très différentes. Classiquement, en informatique, on a des événements qui sont des événements utilisateurs, des clics de souris, des déplacements, des choses comme ça. Et à ces événements-là, on associe des messages. Et quand l'événement se produit, eh ben, les messages sont émis. Maintenant, on peut très bien dire, ces événements, on peut très bien avoir des événements temporels, en quelque sorte, et demander à cet objet-là de surveiller un intervalle temporel. Et donc, quand l'objet rentre dans cet intervalle, ça déclenche un événement et les messages sont émis. Et ça, on peut le voir comme c'est la même chose que si on plaçait ces messages-là dans le temps. Et on peut créer autant d'intervalles qu'on veut. On peut surveiller l'entrée d'un objet dans un intervalle temporel. On peut surveiller également sa sortie. Et donc là, si l'objet se déplace dans le temps, il va faire déclencher les messages. Et ici, par exemple, il s'envoie lui-même le message date 0, et donc, en quelque sorte, je viens de créer une boucle en mettant des messages dans l'intervalle temporel. Et là, par exemple, je vais reprendre mon petit exemple de tout à l'heure. Alors, mon exemple de tout à l'heure, voilà. Donc c'est mon cerf qui se déplace à un tempo de 40. Et puis là, je vais lui dire, ben, je vais lui dire de surveiller un intervalle. Je vais lui dire de surveiller la sortie, en fait. Voilà, la sortie de l'intervalle qui va de 0 à 1, et là je lui dis, ben voilà, quand tu sors de l'intervalle 0 à 1, et eh ben on va dire que non, faut pas que je fasse ça, faut que j'aille dans l'autre sens. Il s'envoie un message à lui-même, et puis en fait il va changer son tempo, mais il faut que je fasse pas dans ce sens là parce que sinon je vais être embêté de l'autre côté. Donc en fait, quand il sort de la partition, et je vais faire la même chose de l'autre côté, hein, et là il va prendre une valeur de tempo positive. Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais remonter le temps. Quand je vais arriver, hop, voilà. Alors j'aurais pu mettre un tempo. tempo un peu plus rapide. Bon, ça va aller vite. Il l'a pas fait. Il le fait, mais trop. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Un zéro, moi, ça. Zéro. Alors, j'ai une bêtise là-dedans que je ne vois pas. Je vais vous montrer un exemple. Qui normalement fonctionne, ça m'évitera de chercher.
La zone temporelle, elle démarre au début de la partition, non?
Oui, normalement. Hein.
Bah, dès qu'il rentre dans la partition, tu finis de repartir dans la.
Oui, voilà. Peut-être, c'est peut-être ça. Hein. Bien sûr, ouais, c'était pas zéro, c'était pas. Dans le premier intervalle était faux. Ici, c'était pas 1-0, c'était 1-2. Voilà. Bon. Alors, donc je vais. Voilà. Donc là, en fait, on a une notion de temps musical, de temps logique. Qui permet en quelque sorte de mettre des messages dans l'espace temporel et de construire des boucles, de construire des sauts, tout ce qu'on peut faire en quelque sorte normalement dans des logiciels qui s'appellent des séquenceurs. Hein. Et il manque encore une notion que j'aimerais bien introduire, et puis je suis en train de travailler sur ces questions-là, c'est la notion de temps absolu. Il y a déjà un petit peu des petits prototypes de cette chose-là. Mais je trouvais que ça serait intéressant de pouvoir dire, ben voilà, ben dans une seconde, par exemple, plus une noire, eh ben il faut que tu fasses telle chose. Alors une seconde, ça c'est un temps qui est connu, qui dure une seconde. Hein. Mais une noire, c'est un temps qui est relatif au tempo, et on ne sait pas quand ça va se passer. Encore faut-il que l'objet bouge. Donc ça, je trouve que ça serait intéressant de pouvoir exprimer ce genre de choses-là, ou dire, ben voilà, dans une noire, plus une seconde. Déclenche ce genre de choses-là, de faire toutes ces compositions temporelles et qui font que à l'arrivée on peut exprimer des choses on peut exprimer des choses assez sophistiquées dans le domaine temporel. Alors j'ai oublié de vous montrer une chose, mais je vais vous la montrer rapidement parce que là pour l'instant je vous montre des processus de synchronisation où en fait le temps se déroule toujours de gauche à droite, etc. En fait, on peut très bien dire, mais le temps, il n'est pas sur l'objet, il n'est pas sur l'objet de gauche à droite. On peut dire aussi, par exemple, le temps, il est sur le pourtour de l'objet, hein, comme ici. Hein. Et donc là, si je déplace mon objet dans le temps, et ben mon cercle, et ben, il va se déplacer sur le pourtour de l'objet. Je peux toujours changer ça pour un rectangle, etc. Mais en fait, c'est sur le pourtour de l'objet. Et ça me mènera à un dernier exemple, qui est celui d'une pièce qui a été réalisée par Vincent Carinola. Ça s'appelle « Jeu est un autre ». Alors voilà la partition. C'est écrit pour un nombre indéterminé d'instruments. Et en fait, cette pièce, elle est fournie avec des instructions qui disent, vous voyez que, bon, il y a des graphiques avec des labels, textures, sculptures, zébrures, etc. Des chemins sur tournure au milieu, en bas, il y a marqué murmure. Et en fait, cette partition est fournie avec des indications qui disent, ben voilà, quand vous quand vous êtes sur sculpture, ben vous allez jouer plutôt de cette manière-là, etc. Et elle fonctionne avec Max MSP qui travaille en temps réel des échantillons ou des ressources sonores qui ont été construites par les élèves, c'est une pièce pédagogique, hein, et qui pilote également la partition en envoyant des événements et en disant ben voilà, en disant simplement voilà, tu te déplaces, mais ça c'est des événements de haut niveau, c'est un peu comme des appels de fonction. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est facile à décrire, il suffit de dire ben voilà, tu te synchronises, on dessine la partition avec des arcs, et puis on se synchronise sur ces arcs en donnant simplement en avec un tempo calculé en fonction de la durée qu'on veut. Et puis voilà. Je m'arrête là. Et si vous avez dit... Alors, dernière chose. Voilà, InScore, c'est du logiciel libre. Vous pouvez l'essayer. Et ça, c'est l'adresse du site où vous pouvez accéder à ces ressources logicielles, etc. Et puis ça fonctionne un peu partout, y compris sur les téléphones. Et voilà, et si vous avez des questions.
Oui, j'ai bien compris quand tu dis score date 0. Le 0, je comprends, c'est le début du monde. Mais si tu dis score date 100, est-ce que tu es obligé de tout rejouer de 0 à 100?
Non, le système fait rien, il ne sait pas ce qui se passe entre la date 0 et 100, sauf si on l'écrit. Mais on pourrait l'écrire.
Mais comment tu peux savoir quel est l'état où tu dois être au temps 100?
Alors on pourrait l'écrire avec des intervalles croissants, c'est-à-dire s'il y a plein d'événements à mettre entre les deux, on pourrait l'écrire avec des intervalles croissants, de manière à ce que quand il rentre dans la date 100, mais après ça ne résout pas le problème de manière générale, hein. Mais ça fait pas ça, ça fait pas l'équivalent de chasing, par exemple, dans les séquenceurs MIDI, quoi. Mais en même temps, là, il y a un c'est pareil, j'ai commencé à revoir un peu à la fois le langage que j'ai présenté la semaine dernière, mais aussi le modèle, et pour voir le modèle comme... quelque sorte le moteur comme une boîte noire qui prend des messages en entrée puis qui produit des messages en sortie, des messages datés, ce qui veut dire que tout le comportement du système à ce moment là est complètement décrit par la suite de messages qui vont jusqu'à la date 100, et on pourrait implémenter à ce moment là un système de chasing. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Ça se passe pas comme ça. Quoi. Généralement, oui.
Finis ta phrase.
Oui, généralement, il n'y a pas trop d'effet de bord dans la partition quand on se va à une page donnée. Mais bon, voilà, c'est la métaphore de la partition. Hein. C'est-à-dire on va à la page 100. On est à la page source. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. La page 100 n'est pas. Ne dépend pas du fait qu'on ait joué la page 80 avant.
C'est symbolique. Hein.
Au niveau, oui, bien sûr. Mais c'est parce que c'était, voilà, au départ, c'était une partition qui est devenue animée par la suite, et ces problématiques-là, effectivement, elles apparaissent maintenant parce qu'on bouge.
Oui, je veux savoir, tu as parlé de messages qui étaient envoyés, c'est uniquement des messages internes, ou est-ce que InScore peut envoyer des messages OSC à l'extérieur?
Oui. Oui, la réponse est oui. Il y a un système d'adresse étendue, c'est-à-dire que dans les scripts, on peut préfixer l'adresse OSC avec une adresse ou une IP suivie d'un numéro de port, ce qui fait qu'on peut l'envoyer à une autre application ou une autre application sur une autre machine.
Ça a été utilisé déjà en... Parce que du coup on peut piloter des processus musicaux extérieurs.
Oui, oui, oui.
Ça a été utilisé à travers le monde entier d'ailleurs, non?
Pardon?
Vous avez fait des démos qui étaient internationales, genre Canada, Lyon, je ne sais plus, avec ça. À travers Internet.
tout ce qui est réseau, c'est la dernière partition que j'ai montrée, la Ucodus de Slavko. Après, c'est beaucoup, il y a beaucoup, les gens qui l'utilisent font beaucoup. Alors moi, je ne connais pas tous les projets, hein. J'en connais quelques-uns.
Je pensais au miroir que vous aviez créé.
Ah oui, miroir distant, mais miroir distant, c'était... ouais, en gros, la partition, elle était calculée localement. Elle n'était pas transmise et c'était retravaillé avec Jitter. Et donc, tu avais des choses qui étaient calculées dynamiquement par InScore et qui ensuite étaient intégrées dans un environnement de Jitter.
Une question d'informaticien, il y a quelques... Comme tu l'avais proposé, c'était pas il y a très longtemps, ces histoires de messages qui peuvent s'envoyer un peu partout et à soi-même, et etc. Moi, j'avais été un peu effrayé en me disant, mais assez vite, on fabrique applications, c'est plus comment ça marche. On n'est plus capable de prédire comment ça va marcher, parce que les messages s'échangent dans tous les sens et ça rebondit. Et vous, dans les mises en œuvre que tu as pu apercevoir, c'est des limites qui ont été touchées ou typiquement là, tu prévois quelque chose et puis au moment où ça se lance, l'écran reste noir et puis éventuellement l'animation est terminée. Un peu comme la démo que tu nous as fait là, où ça se met à gigoter le premier temps.
Oui, c'est un mauvais intervalle. En plus, j'ai décrit un intervalle qui remontait dans le temps. Je ne sais pas si tu imagines.
Mais dans les...
D'ailleurs, c'était pour voir si vous surveilliez, mais j'ai bien vu que personne ne surveillait.
Ben,
en fait.
J'ai dit ah bon,
non, personne ne vous a rien dire. Non, je pense pas que... Alors...
Si on fait n'importe quoi, on obtient n'importe quoi comme résultat, ça c'est clair. Mais les gens qui l'utilisent, est-ce que c'est...
Le système est censé être prédictible. Même si tu veux, le système peut s'envoyer des messages à lui-même, mais l'ordre des messages est complètement fixé, en fait, par l'utilisateur. Hein. Donc il est censé être complètement prédictif. Après, tu as une autre question, c'est de se dire, bah, oui, comment on maîtrise en quelque sorte le programme qu'on fait avec ça. Et là, bah, de plus en plus, ça va vers des choses qui permettent de mieux structurer ce programme avec les événements utilisateurs que j'avais présentés, je ne sais plus quand. C'est des équivalents d'appels de fonction avec des arguments. Et voilà, ça permet par exemple de structurer son programme. Et de mieux maîtriser ce qu'il fait. Après, je pense qu'on se retrouve toujours avec... à partir du moment où on programme, on peut toujours avoir... écrire des choses qui sont difficiles à maîtriser.
Mais alors donc, quelqu'un de malveillant...
Oui.
Quelqu'un de malveillant, il pourra envoyer des choses qui portent tort à tous ceux qui reçoivent le message. Qui
absolument.
N'en finirait plus de se reproduire. Non.
Oui, non, mais il pourrait y avoir des terroristes de la partition musicale.
Oui, voilà, qui s'amuseraient comme ça, faire de bonnes blagues.
Ouais, ouais. Non, mais c'est
dangereux.
Ah ouais.
Sur la musique, peut-être. Nos oreilles aussi.
Non, mais des bruits blancs. Des bruits blancs.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Après, il y a ces problèmes de sécurité. Il n'est pas du tout sécurisé. C'est-à-dire, effectivement, si quelqu'un... déjà arrivé. Par exemple, vous auriez pu, si vous aviez eu l'information nécessaire, avec votre téléphone, interagir avec les partitions que je montrais. Moi, j'aurais pu le faire aussi. Bon, ça, c'est vrai pour toutes les communications réseau.
Oui,
à partir du moment où on est dans un environnement de...
C'est ce qu'on voit tous les jours
de concert. Oui, mais c'est... Dans le domaine musical, je crois qu'on n'a pas trop... On protège, c'est pas trop protégé, quoi. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'attentat de cette nature encore. Après, peut-être le jour où ça se produira, quelqu'un qui viendra saboter une pièce, peut-être qu'il y a des gens qui se poseront la question. Mais, ouais. Le système est ouvert, il est complètement public, puis on peut envoyer des messages, si on sait faire, hein, on peut lui envoyer des messages.
Et tu as des expériences d'utilisation de InScore par des néophytes en informatique?
Je me souviens, je
connais un violoncelliste qui écrit ses partitions, alors pas avec Guido, mais avec
Didipond.
Très proche, ouais, et qui plaît beaucoup. Il a trouvé ça extraordinairement mieux que n'importe quel logiciel d'interface avec ce, etc.
Il y a des gens qui préfèrent les descriptions textuelles.
C'est beaucoup plus efficace et qu'on sait l'utiliser. Mm-hmm. Au-delà de ça, il y a toujours un rythme en fait.
Je ne saurais pas dire parce que je sais. Non, je pense pas. Par exemple, je sais que Richard Audley, il fait tout lui-même et puis il le pilote avec SuperCollider, donc il programme vraiment ses partitions. Slavko Zagorak, c'est pareil, il a tout fait lui-même. Qui d'autre? Il y a. Non, je pense que les gens que je connais qui utilisent le système, bah, ils sont autonomes, quoi. En même temps, c'est pas très compliqué.
Et puis ils ont appris à programmer en utilisant.
Puis même, c'est en gros, on a une espèce de on peut l'utiliser d'une manière basique de manière complètement séquentielle, c'est-à-dire que voilà, les messages sont exécutés l'un après l'autre. C'est un peu comme faire une recette de cuisine, c'est pas. Et puis c'est assez explicite, c'est très homogène, plutôt simple à manipuler. Après, si on veut faire des choses complexes, on peut écrire des choses complexes assez facilement. Mais en tout cas, il y a toujours une manière simple de les exprimer.